Le billet politique Frédéric Seize, l'affolement politico-médiatique face au coronavirus.
Et pas moins d'une demi-douzaine de ministres convoqués à Matignon hier à propos de ce coronavirus. Début de la réunion sous l'œil des caméras, la ministre de la Santé côtoie celle des armées, le ministre de l'Intérieur voisine avec celui des Affaires étrangères, assis non loin de son collègue chargé des transports. Bref, il s'agit de montrer que le gouvernement est actif, même un dimanche, contre le coronavirus, de rassurer par l'image au moment où un deuxième avion de rapatriés en provenance de Chine a atterri hier après-midi près de Marseille. Alors bien sûr, en pareil cas, il est du devoir du gouvernement de tranquilliser, de ne pas alimenter de psychose, mais comment ne pas percevoir ces derniers jours un certain emballement politico-médiatique. À l'échelle de la France, le décalage entre la panique et les faits est saisissant. Jusqu'ici, 6 cas ont été identifiés, dont aucun mortel à cette heure. Pendant ce temps, la grippe saisonnière, silencieusement, a déjà tué en France plusieurs dizaines de personnes cet hiver. Naturellement, il n'est pas question de juger superflu les mesures de précaution. Et si cette peur peut conduire davantage à effectuer les gestes de prévention, comme se laver les mains, alors ce n'est pas totalement inutile. Mais un petit tour par les archives devrait nous amener à relativiser, à tempérer l'alarmisme général en France. Souvenez-vous du SRAS, par exemple, en 2003, on l'évoquait, le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, virus là aussi venu du continent asiatique. Et voici un extrait du journal de France 2 à l'époque.
Alarmiste, la directrice estime que le virus est plus rapide que nos capacités scientifiques. À ce jour, la pneumonie atypique s'est propagée à une vingtaine de pays dans le monde. Plus de 80 personnes sont mortes et plus de 2200 ont été contaminées. En France, les autorités sanitaires annoncent de nouveaux cas probables.
Et pendant plusieurs semaines, les journaux télévisés ont multiplié les micro-trottoirs affolés dans les rues parisiennes. Les politiques ont enchaîné les déclarations alarmistes. Bilan final, 774 morts dans le monde, soit 0,00001% de la population mondiale, rien en proportion de la panique globale. Et que dire de l'épisode du virus H1N1? La psychose ambiante avait conduit la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, à annoncer la commande de dizaines de millions de doses de vaccins. C'était en 2009.
La ministre de la Santé veut rassurer à tout prix. Elle passe commande de 94 millions de doses de vaccins.
Les vaccins ont été réservés très tôt parce que les capacités de fabrication des laboratoires ne sont pas extensibles et que ces laboratoires serviront prioritairement les pays qui ont fait des réservations.
94 millions de doses, dont une grande partie est restée aux dernières nouvelles, entassées dans des cartons, extraits d'un reportage de France 24 signé Alexandra Renard. Cette jurisprudence devrait nous inciter à la prudence, à la tempérance. Bien sûr, il n'est pas question de dire que l'inquiétude est sans fondement, de même que les conséquences économiques, peut-être diplomatiques, de l'épidémie sont intéressantes à discerner, mais rien qui justifie en tout cas une défiance générale et encore moins le climat de suspicion, voire de haine à l'égard des ressortissants asiatiques ou de leurs enfants recensés ces derniers jours.
Alors pourquoi ce catastrophisme ambiant, Frédéric ?
Premier facteur le plus évident, le principe de précaution politique. Un ministre a moins à perdre politiquement s'il surréagit que s'il sous-réagit. Chacun garde en mémoire l'image d'un ministre de la Santé en polo dans son jardin pendant la canicule qui emportait des milliers de personnes âgées en 2003. Deuxième facteur, la presse, qui n'est pas exempte de responsabilité. La peur fait vendre, la crainte arrime le téléspectateur et dope l'audimat. Il est vrai que les images qui viennent de Chine sont fortes, des masques sur les visages, des quartiers confinés et des drones du gouvernement qui morigènent les patients un petit peu trop insouciants. Mais il y a des causes plus profondes et peut-être plus enfouies. La hantise de ce monde ouvert où les épidémies semblent circuler aussi facilement que les marchandises. Dans ces phases d'inquiétude et d'incertitude, il y a aussi une préférence pour le scénario du pire. Cela a été documenté. Le cerveau humain, quand il est soumis à l'incertitude, privilégie l'hypothèse la plus angoissante. C'est un peu le syndrome du joueur de loto version pessimiste. Vous êtes sûr que ça va vous tomber dessus, même si statistiquement le cas est hautement improbable. D'où la préférence pour une rumeur vue sur Facebook plutôt que pour les conseils donnés par les médecins. C'est la version extrême du vieux proverbe « prudence est mère de sûreté ». Le paradoxe, c'est que l'époque est au scepticisme envers les vaccins et la science, mais face au coronavirus, on exige qu'un vaccin soit mis au point dans les 24 heures. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas si paradoxal. La peur et l'ignorance se donnent la main, se contaminant l'une l'autre. Et voici la contagion qui doit peut-être le plus nous préoccuper et contre laquelle il n'existe hélas pas de vaccin.
Merci Frédéric Seize pour ce billet politique. On va maintenant parler coronavirus avec des médecins, 8h22 sur France Culture.